Bon matin. Je vous invite à tourner dans Romains chapitre 9, verset 14. Romains chapitre 9, verset 14. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là, car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. Et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, « Pourquoi m'as-tu fait ainsi? » Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil? Et que dire, si Dieu voulait montrer sa colère et faire connaître sa puissance, à supporter avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour sa gloire. Merci.
Est-ce que Dieu est injuste? Voilà la question que Paul pose ici. Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Et je propose que nous étudions ensemble ce passage entre le verset 13 et 23 de Romains chapitre 9. En effet, sur deux points qui sont discutés ici dans ce texte. D'abord, la colère de Dieu. Le sujet le plus populaire dans notre société, n'est-ce pas, la colère de Dieu. Et deuxièmement, la miséricorde de Dieu. Et nous allons commencer par faire une petite introduction. Rappelons-nous ici que l'apôtre Paul, dans le contexte de Romains, est en train d'expliquer pourquoi, si Dieu nous a promis un salut qui ne se perde pas, si nous sommes dans une sécurité parfaite à cause de l'œuvre de Christ, comment ça fait que les Juifs ne suivent pas? Comment ça fait que les Juifs sont perdus? Le peuple de Dieu de l'Ancien Testament a rejeté Christ. Et Paul explique comment cela est conséquent avec cette idée que notre salut est assuré. Et il a fait, nous l'avons vu la semaine passée, en expliquant que Dieu a toujours choisi que ceux qui sont sauvés ne sont pas tous qui portent le même groupe sanguin qu'Abraham, pas tous qui sont descendus physiquement d'Abraham, mais plutôt que parmi ceux qui sont descendus d'Abraham, il y en a que Dieu a choisi. Dieu a choisi Abraham d'abord. Ensuite, il n'a pas choisi Ishmaël, il a choisi Isaac. Et ensuite, il n'a pas choisi Ésaü, il a choisi Jacob. Et devant ces choix, Paul, comme tout bon professeur, comme tout bon pédagogue, anticipe les questions et les objections. Puis certainement, de nos jours aujourd'hui, des personnes diraient, « Mais oui, mais Dieu est injuste. Il a choisi Jacob, il n'a pas choisi Ésaü. C'est injuste. » Comment ça fait que Dieu peut en choisir certaines puis pas en choisir d'autres? Mais c'est injuste. C'est l'objection à laquelle l'apôtre Paul répond ici. Puis à ceci, j'aimerais commencer par vous dire ceci. La semaine passée, on a parlé de cet univers géocentrique qui existait depuis les temps de Grec pendant 2000 ans jusqu'au temps de Galilée. Galiléo, puis Kepler et les premiers astronomes, merci. Et comment pendant 2000 ans, on croyait que la Terre était le centre de l'univers? Puis ensuite, on croyait que le soleil était le centre de l'univers. Puis on réalise que ce n'est pas vrai aujourd'hui. Puis qu'on vit dans un monde qui est un peu anthropocentrique. Nous, moi, me, myself and my, moi-même, je suis le centre de l'univers. Puis la réalité, c'est que Dieu est le centre de l'univers. Et cet univers existe pour que Dieu soit glorifié. Et toute autre chose est importante et doit contribuer à la gloire de Dieu. Dans l'éternité passée, avant que le temps existe, avant que la matière existe, avant que le soleil, puis la terre, puis les astres, puis les galaxies, puis cet univers existe, Dieu a voulu manifester sa gloire, il a voulu se faire connaître. Mon épouse rit souvent de moi parce que j'aime les zoos. Quand on parle d'une activité familiale, je dis toujours, on pourrait aller au zoo, là, tu sais, au nord, là, où est-ce que c'est ça? C'est quoi? Oui, j'ai jamais été là, je vais aller voir là. Ça a l'air qu'ils ont un glouton, là. Puis, j'ai jamais vu ça, puis je veux en voir une. J'essaie d'analyser cela. Moi, j'aime beaucoup les animaux de loin. J'aime pas les toucher. J'aime pas flatter les chiens. J'aime pas les chats. Mais regarder les animaux dans un zoo, j'aime ça. Puis, je pense que c'est parce que l'une des activités familiales qu'on pouvait se permettre quand j'étais tout petit gars, c'était aller au zoo dans une ville qui s'appelait Shubenacadie, en Nouvelle-Écosse. Là-bas, il y avait beaucoup de noms amérindiennes. C'était pas loin de chez nous, c'était gratis. Il y avait beaucoup d'animaux, puis on n'était plus juste d'enfants, puis on n'était pas riches, mais on pouvait se permettre d'aller à ce zoo-là, amener un lunch pique-nique, puis voir les animaux. Puis je me souviens de cet animal, cet oiseau. Alors, j'ai voulu demander à quelqu'un c'est quoi le mot, ça m'a échappé. En anglais, c'est peacock. Ben. Que c'est donc magnifique! Que c'est donc magnifique! Ça a l'air que c'est le mâle qui fait ça. Moi, je me souviens que les mâles se promenaient, puis ils montraient leurs feuilles, puis ils criaient leurs plumes, puis ils regardaient, puis ils criaient fort pour attirer les femelles, pour démontrer leur gloire. On dit aussi que les décorations, ça ressemble aux yeux d'un tigre, puis ça pourrait, dans certaines circonstances, faire peur aux animaux féroces comme le léopard, je ne sais pas. Mais ces oiseaux avaient l'air, je me souviens, j'avais 3, 4, 5 ans, de ces oiseaux qui dépoilaient leur magnificence pour que tout le monde les voie, le voisin. Dieu est magnifique dans sa personne. Il est glorieux. Il est puissant. Il est sage. L'univers existe pour sa gloire. Pas pour ma gloire, pour ta gloire, mais pour la gloire de Dieu. Et comme je dis, nous vivons dans une philosophie où le monde est entouré autour de nous. Plus spécifiquement, Dieu a voulu que toute cette gloire-là soit dirigée envers son Fils. Et l'univers existe pour la gloire de Jésus-Christ, deuxième personne de la Trinité, Dieu le Fils. L'univers existe pour cela. Alors, ce passage, je pense, met les points sur les i, sur cette question-là. Cet univers existe pour la gloire de Dieu. Maintenant, pensons à la colère de Dieu ici. Et commençons par quelques réflexions. L'importance des conséquences. C'est un problème pour la philosophie. Vous savez que l'une des grandes difficultés avec cette philosophie typiquement québécoise qui est lorsqu'on meurt, 6 pieds sur la terre, puis ça finit là. Vous connaissez cette philosophie-là. Un des grands problèmes, c'est ceci, c'est que inné en nous, nous avons une recherche sur la justice. Et que dire de quelqu'un qui a mal vécu toute leur vie, qui ne s'est jamais fait prendre, qui a vécu dans la richesse en exploitant les autres, en abusant son autorité et tout cela, puis qui est mort, puis n'aura jamais à subir les conséquences. Que dire de cela? Quel monde croche en nous, puis je pense que c'est une partie de cette conscience que le Créateur a fait en nous, nous avons ce désir de la justice. Et comment accepter que quelqu'un échappe à la justice en mourant et n'en existant plus? Aucune conséquence. C'est un problème philosophique important. C'est un problème pour notre société. On vit dans une société où il n'y a pas beaucoup de conséquences, et surtout pour nos enfants. J'ai 4 petits-enfants que j'aime de tout mon cœur, presque parfaits. Il y en a une qui est moins parfaite que les autres, et qui a des petits problèmes de colère des fois. Puis l'autre jour, il y a quelques semaines, il a voulu frapper sa grand-mère, ma femme. Malheureusement pour lui, j'étais là. Et comme grand-père, ce n'est pas ma place de lui taper les fesses. Mais il y a eu des conséquences. Rapidement, isolation, un bon sermon, deux bons sermons, un avant puis un après. Puis rapidement, c'est comme si l'enlèvement avait eu lieu. Il ne savait pas que j'étais là, par en arrière, dans le lit. Il y a eu des conséquences. Mais sais-tu qu'il n'a jamais recommencé? Il n'a jamais recommencé. Conséquences. Et quand il n'y a pas de conséquences, mais on a la société que nous avons. Nos profs d'école qui sont brûlés, nos palais de justice qui sont remplis, qui ne fournissent plus, manque de conséquences. Si on diminue la pénalité d'un péché ou d'un acte, il y a des conséquences. Que diriez-vous si l'amende, si on se fait prendre à voyager à 150 km à l'heure sur la route 40 ici, la police nous arrête, c'est une amende de 2 $. Est-ce que ça va nous convaincre de plus rouler à 150? Je suis allé à Toronto, à Windsor, Grand Rapids dernièrement, avec mon épouse dans l'auto, puis on roulait l'Ontario, puis une grande enseigne qui dit que si vous faites 150 km à l'heure, je pense que c'est 15 000 d'amende, on saisit votre auto immédiatement, vous perdez votre permis de conduire. Je n'ai pas roulé à 150. Conséquence. Que diriez-vous si le crime, si on tue notre voisin dans une crise de colère, c'est une amende de 100 $? Il y a des voisins qui seront moins tannants. Hein? Est-ce que vous voyez que quand la pénalité n'est pas en mesure du crime, n'est pas en proportion du crime, que le crime perde sa pertinence, perde sa gravité, on diminue l'importance du crime. Vous me suivez là? Hein? Et chers amis, Dieu est un Dieu saint. Pur. Puis le péché n'est pas contre nous-mêmes. Dans notre société moderne, on dit qu'il faut toujours penser que lorsqu'on pêche, c'est d'abord contre nous-mêmes qu'on pêche. Non. C'est faux. Puis même si on lit dans des bons livres chrétiens, des fois, ce n'est pas plus vrai. David a dit contre toi et toi seul, j'ai péché. Il avait péché contre Bathsheba, il avait péché contre ses femmes, péché contre sa famille, il a péché contre Uri. Mais quand il était vraiment pris face à face avec son péché, il a compris que c'est contre toi et toi seul, Dieu, que j'ai péché. Le péché est un crime contre Dieu. Et Dieu est infiniment saint. Et notre péché est infiniment méchant. Et c'est seulement une pénalité infiniment grande qui peut être en mesure de la gravité de notre péché. Si on diminue la pénalité du péché, on abaisse la sainteté de Dieu. On diminue la valeur de la sainteté de Dieu. On dévalorise la mort du Christ. Écoute bien là. Si la pénalité du péché, c'est une amende de 2 $, pourquoi que cette mort de Christ terrible sur la croix, pourquoi que le Fils de Dieu, en continuel intime communion avec son Père, a été séparé de son Père sur la croix, est mort à notre place, a souffert pour nous. Pourquoi cet sacrifice d'une valeur infinie si la pénalité du péché était une amende de 2 $. Vous me suivez? On décroit l'amour de Dieu, de Christ. Si notre péché n'est pas si grave que ça, ne mérite pas la peine éternelle, l'enfer, si vous voulez, la colère de Dieu versée sur nous. Mais comment comprendre l'infinie grandeur de l'amour du Christ, Dieu qui a tant aimé? En 2 minutes, le ministère de Jésus-Christ, qui nous a beaucoup parlé de l'enfer, Jésus-Christ nous parle de l'enfer beaucoup plus qu'il parle du ciel. Enfin, j'aimerais vous suggérer ceci, puis c'est une citation directe d'une personne que j'ai écoutée pour la première fois cette semaine. J'étais à Chicago dans une conférence, puis j'ai entendu une personne dont je ne connais même pas le nom, un gars qui vient du Corée du Sud, il s'appelle Stephen je suppose que c'est son nom, on le prononce comme ça. Quel grand penseur. Il est dit ici, il dit, moi je viens du Corée du Sud et votre difficulté ici en Amérique du Nord, dans la société de l'Europe, de l'Ouest, puis de l'Amérique du Nord, de comprendre le colère de Dieu, il dit, c'est culturel. Il dit, mon père a vécu pendant la Deuxième Guerre mondiale et avant, quand le Japon a envahi la Corée. Je ne sais pas si vous réalisez qu'un peu avant la Deuxième Guerre mondiale, le Japon a envahi la Chine et la Corée. Et ils ont fait des choses infâmes. Des dizaines de milliers de jeunes filles coréennes et chinoises aussi ont été kidnappées, amenées au Japon pour servir comme prostituées au service des soldats japonais. Et beaucoup sont morts, certains sont revenus. C'est vraiment terrible qu'est-ce qu'ils ont fait. Terrible, terrible. Ce que les Allemands ont fait aux prisonniers de guerre, c'est rien à côté de ce que les Japonais ont fait. Puis il dit, mon père a vécu toute sa vie avec le désir que les Japonais soient punis. Et puis on ne peut pas comprendre ce qui se passe dans la Chine puis toute cette grande région-là si on ne comprend pas la haine qui existe encore entre les Coréennes et la Chine d'une part, puis le Japonais de l'autre part. Ça n'a pas été pardonné, cela-là. Pas encore. Puis moi, je pense que ça va prendre un couple de générations encore. Mais il dit, moi, j'étais élevé dans une culture où punir la méchanceté, la colère contre ceux qui ont été méchants envers nous, ça fait partie de ma culture. Pour moi, c'est normal que Dieu soit un Dieu de colère. Il doit être un Dieu de colère, c'est normal. Puis il dit, si vous êtes dans une société qui est un peu mollo, un peu. C'est vrai. C'est vrai, cela. C'est culturel, cela. Maintenant, certains versets pour quitter les philosophies et envoler la parole de Dieu. D'abord, Romains a commencé avec ça. Il y a une petite introduction de quelques versets. Puis le verset 18 commence le grand argument de Paul. Vous le connaissez. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. C'est verset 18 du chapitre 1er. Paul commence son argument de Romains en parlant de la colère de Dieu. Et je sais que ce n'est pas populaire, puis on veut parler de l'amour de Dieu, puis Dieu aime, puis tralala, mais Romains commence avec la colère de Dieu. Puis, chers amis, on ne peut pas s'approcher de Dieu si on n'a pas compris qu'il est en colère avec le péché et avec ceux qui vivent dans le péché. Colossiens 3, 6 le dit comme ceci. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vienne sur les fils de la rébellion. Deutéronome 29, 20. Mais alors la colère et la jalousie de l'Éternel s'enflammeront contre cet homme. Toutes les malédictions écrites dans ce livre reposeront sur lui et l'Éternel effacera son nom de dessous les cieux. La colère de Dieu, un thème dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau Testament. Attention, de plus en plus je vois, mais ça a toujours été vrai dans certains milieux, mais je le vois que ça vient dans les milieux même évangéliques. Le Dieu de l'Ancien Testament est un Dieu de colère, mais dans le Dieu du Nouveau Testament, est un Dieu d'amour. Non. Non. Le Dieu de l'Ancien Testament est un Dieu de colère, puis c'est un Dieu d'amour, et le Dieu du Nouveau Testament, c'est un Dieu de colère, puis un jeu d'amour. Pour ceux qui aiment C.S. Lewis, c'est rendu à 3 films, là, Narnia et tout cela. Là. Dans un des films, c'est très intéressant, on dit d'Aslan, cette lion qui nous parle clairement de Jésus-Christ, on dit, il est dangereux. Il est dangereux. C'est vrai. Dans un certain sens, notre Dieu est un Dieu dangereux, c'est un Dieu de colère. Fais attention. Psaume 2:12. Baissez le fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Psaume 110. Le Seigneur à ta droite brise les rois au jour de sa colère. Ésaïe 30, 27. Voici le nom de l'Éternel vient de loin. Sa colère est ardente. C'est un violent incendie. Ses lèvres sont pleines de fureur et sa langue est comme un feu dévorant. Apocalypse 14. Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, verser son mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Depuis les premières pages de la parole de Dieu jusqu'aux dernières pages, Ancien Testament, Nouveau Testament, dans les épîtres et dans les évangiles et dans l'Apocalypse et dans les psaumes et dans les prophètes et dans le Pentateuque, on nous parle de la colère de Dieu. En effet, j'ai compté rapidement. Il semblerait, d'après ce que j'ai pu voir, que colère, le mot colère et le mot Dieu sont associés 35 fois. Dans la Bible, et le mot colère avec le mot Seigneur sont associés 71 fois. Ça vient de 106 fois, puis j'en ai sûrement manqué. Colère et Dieu vont ensemble plus souvent qu'on voudrait l'admettre. Mais donc, revenons plus près de notre texte ici, on nous parle de Pharaon. Au verset 17, on nous dit que Pharaon, et vous comprenez que Pharaon est et ce roi d'Égypte, c'est un titre, non pas un nom, mais un titre qui est donné à tous les rois d'Égypte. Ici, ce n'est pas Ramsès II, même si on voulait nous le faire croire, qui a vécu dans les années 1200, quelque chose avant Jésus-Christ, mais plutôt un autre roi qui a vécu 1450 avant Jésus-Christ, un autre pharaon. Et cet pharaon, en texte nous dit, il était suscité à dessein pour démontrer la colère et la puissance de Dieu. Ce mot suscité à dessein est utilisé pour décrire non pas quelqu'un qui est créé ou qui est élevé, mais quelqu'un qui est mis dans une position d'autorité. Tu as été établi comme roi en Égypte. Puis quand on y pense comme faux, là, Pharaon, c'est évident quand on lit l'histoire dans l'Exode, c'est un gars qui était assez ébu de lui-même. Puis il pensait que c'était par sa puissance et par son intelligence, puis par sa force, qu'il régnait sur Égypte. Si vous vous souvenez de l'histoire de l'humiliation de Nebuchadnezzar, qui à un moment donné a crié, « C'est Babylone que j'ai construit! » Dieu a dit non. Pharaon est suscité, il est mis en position de dignité et autorité par Dieu pour que Dieu, par lui, démontre sa colère et sa puissance. Puis Dieu a montré sa puissance comment? Les displays. Fois après fois, 10 fois, la colère de Dieu est manifestée. Chacune des plaies qui attaquent un des dieux d'Égypte, qui atteint la réputation et l'œuvre et le domaine d'autorité d'un dieu d'Égypte quelconque, chacune des plaies d'Égypte attaque un de ces dieux-là. Puis Dieu demande sa puissance. Puis la puissance des dieux d'Égypte est montrée comme néant, n'est-ce pas? Dieu demande sa puissance. Pharaon existe pour les puissances. Puis son cœur a été endurci. Passage 10 fois dans le livre d'Exode, nous lisons que Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Mais, quand même, Pharaon est responsable parce qu'il a endurci son propre cœur. J'aimerais en même temps vous dire que Dieu a démontré sa patience envers lui. J'aime beaucoup le verset 22. Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère prêts pour la perdition? Oh, la patience de Dieu ici. Patience de Dieu. Pendant longues années, pendant 10 fois que Pharaon n'a pas écouté la voix de Dieu, s'est rebellé, ce qui s'est endurci, Dieu a été patient. J'aimerais encore une fois qu'on retourne au début de Romains, au chapitre 2, le verset 4 et 8, où nous lisons ceci. Paul pose la question ici des Juifs qui connaissaient la parole de Dieu. Ou méprise toutes les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Où est-ce qu'on réalise que quand Dieu est patient avec nous, que ce n'est sa bonté qui nous pousse vers la repentance? Je me souviens à Londres, il y a une tradition, il y a un parc qui s'appelle Hyde Park, dans lequel on peut amener un petit banc et monter sur notre banc, faire un discours. On est libre pour le faire. Les chrétiens vont souvent prêcher là, puis les athées aussi. Il y a un athée qui s'est levé à Hyde Park et dit, « Je mets Dieu au défi. Si Dieu existe, qu'il me frappe de foudre immédiatement. » Puis on saura qu'il existe. Puis s'il ne me frappe pas par la foudre d'ici 3 minutes, on va savoir qu'il n'y a pas de Dieu. Et regardez sa montre. Il n'a pas été frappé par le foudre. Il dit, « Je viens de prouver que Dieu n'existe pas. » Puis une chrétienne a écrit de la foule, « Non, 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 tu viens de prouver que Dieu est patient. » C'est juste ça que tu as prouvé. Regarde ensuite, chapitre 2 de Romains, « Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu amasses un trésor de colère. » Ou quelle expression, un trésor de colère. « Pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité, et obéissent à l'injustice. » Et je crois que ce que nous lisons sur Pharaon dans le chapitre 9 n'est qu'un exemple, une exposition de ce que Paul avait déjà dit au chapitre 2. Il y a un point technique ici que j'aimerais regarder avec vous. Il y a cette question d'une double prédestination qui est très controversé. Comprenons, nous étions tous perdus. Pas un seul homme ou femme sur la terre dans l'histoire de l'humanité qui n'a pas été perdu. Damné sous la condamnation de Dieu. La colère et la justice de Dieu exigeaient qu'on meure. Et on soit remis dans les peines éternelles, souffrir pendant l'éternité à cause de l'énormité de notre péché. C'est ça qu'on méritait. C'est ça qu'on méritait. Puis de toute la masse d'humanité qui est perdue, Dieu m'a choisi. Il vous a choisi. Puis il y en a d'autres qui n'ont pas choisi. C'est ça que le texte dit ici. La double prédestination dit ceci, que non seulement que Dieu a choisi certains pour être perdus, mais aussi il a délibérément choisi non seulement que Dieu a choisi certains pour être sauvés, mais qu'il a délibérément aussi choisi d'autres pour être perdus. Double prédestination. Mon père a fait toute la Deuxième Guerre mondiale et comme beaucoup d'hommes qui ont vécu ces terribles expériences, il en parlait peu. Mais une chose qui revenait souvent, à quelques reprises pendant la guerre, il était sur des bateaux qui faisaient l'escorte des bateaux marchands qui apportaient les vivres en Europe, du Canada et des États-Unis surtout. Et un bateau est coulé par un sous-marin. Il y a des hommes dans l'eau. L'eau dans le Nord-Atlantique est très froide, vous avez à peine quelques minutes pour vivre. si on ne vous sort pas de l'eau rapidement. Puis en plus, normalement, il y a beaucoup d'huile dans l'eau après qu'un bateau ait coulé, surtout quand c'est un pétrolier. Et les sous-marins qui ont coulé le bateau sont encore là. Puis ça fera leur énorme bonheur de couler en plus le bateau escorte, hein? Le bateau navire de guerre, la corvette ou le destroyer sur lequel mon père servait. Le consigne était souvent, vous avez 5 minutes, sauvez ceux que vous pouvez sauver à peu près ça, en fil. Puis mon père me disait qu'il réveillait souvent dans la nuit. Moi, je l'ai entendu souvent, ça réveillait avec, on appelait ça des horreurs, nous autres, en criant, puis dans l'angoisse terrible. Et il disait, il y avait 35 hommes dans l'eau, on pouvait en sauver 10. Il fallait choisir 10 qui allaient vivre, puis laisser les autres à leur sort. Mon père était décoré, même à 2 reprises, il a sauté dans l'eau pour mettre une corde autour de quelqu'un. Ils étaient fatigués, froids, dans la terreur, leurs mains étaient glissantes, ils ne pouvaient même pas s'attacher à une corde. Puis pour mon père, c'était l'expérience plus horrible de sa vie. Je l'ai souvent dit, pas de sauver 15 personnes avec l'équipage, 20 morts, ce n'est pas ta faute. Les 35 étaient mourantes, on a sauvé 15. Vous me suivez, là? L'illustration est peut-être petite, mais si Dieu en a sauvé quelques-unes, si on méritait tous la mort, puis Dieu a sauvé quelques-unes, Dieu n'est pas juste. Dieu n'est pas injuste pour autant. Mais dans Romains chapitre 9, regardez-le dans votre Bible, c'est important. Le verset 22. Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère, regarde les mots, prêts pour la perdition. Dans l'original, l'expression prêt pour la perdition, c'est un verbe. Et c'est un verbe qui est au passif. C'est un verbe qui est au passif. À la voix passive. Mettons, je sais que vous êtes tous des experts de grammaire français. Alors, je vous explique encore une fois ceci. C'est que si je me mords, si je mords, je suis responsable. Ça m'arrive de me mordre la langue en mangeant. C'est-tu choquant, ça? Est-ce que vous êtes déjà arrivé, ça? Hein? Le fait que la voix passive est utilisée ici, ce n'est pas la voix active. C'est Dieu avait préparé Pharaon ici comme vase de colère pour la perdition. Il serait la voix active. Mais c'est la voix passive ici. Et dans un sens, ça veut dire ceci, Pharaon s'est préparé lui-même. OK? Pharaon s'est préparé lui-même. Maintenant, Dieu est souverain. Et si je suis sauvé, c'est parce que Dieu m'a choisi. Et dans un vrai sens, Dieu n'a pas choisi d'autre. Puis moi, je ne comprends pas cela. Aucune indication est donnée dans la parole de Dieu pour expliquer les choix de Dieu dans l'élection. C'est dans les secrets de Dieu. C'est dans les secrets de Dieu. Je ne sais pas pourquoi. Mais une chose que je sais, c'est que tous les fois que je vois que Dieu a fait des choix, il avait donc raison. Il avait donc raison. Quand Dieu a choisi Jacob et non pas Ésaü, au début, je n'aurais pas été d'accord avec lui. Jacob, c'était une espèce de tricheur, fiston de maman, qui passait toujours par 4 chemins détournés pour voir ce qu'il voulait. Ésaü, c'est un homme. Un homme à mon cœur. Mais quand on voit les suites de l'histoire, on voit qu'Ésaü est un homme profane qui méprise les promesses de Dieu, qui méprise tout ce qui est spirituel, puis que Jacob finit quand même bien avec un désir de suivre Dieu, n'est-ce pas? Puis c'est par grâce. Puis Dieu a fait ses choix. Mais on observe toute l'histoire pour dire, ouh, qui avait raison. Ici, dans l'histoire, nous avons Moïse et Pharaon, en effet. Dieu fait nos choix ici. Tous les deux étaient meurtriers. Tous les deux étaient pécheurs. Tous les deux étaient damnés à la perdition. Puis Dieu sauve Moïse, puis il condamne Pharaon dans sa souveraine choix qu'il fait. Mais qui avait donc raison? Et si c'est vrai que Dieu a endurci le cœur de Pharaon, Pharaon a endurci son cœur. Puis tant de fois que Dieu a étendu sa parole vers Pharaon, puis donner encore une opportunité de se repentir puis d'obéir à sa parole. Puis tant de fois que Dieu a dit, Pharaon a dit non, 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 jusqu'à ce qu'il a été détruit par son armée, avec son armée, n'est-ce pas? Alors, j'aimerais vous dire que je rejette de tout mon cœur l'idée que la prédestination consiste en ceci, que Dieu a regardé dans l'avenir, puis il a vu ceux qui allaient l'accepter, puis ceux-là, il les a prédestinés. Non, non. Ça, c'est de faire de Dieu l'esclave des choix des hommes. Dieu a fait des choix. Mais Pharaon a durci son cœur. Puis Pharaon, par ses propres actions, par les propres attitudes de cœur, s'est préparé pour être un vase d'honneur. C'est au passif ici. Vous suivez? Un petit paragraphe, Bob, qu'on peut montrer. Dieu n'est pas l'auteur de leur péché. Ils sont entièrement responsables. Il n'y a pas un homme qui va voir Dieu lors du dernier jugement et va dire, « Moi, je suis condamné à cause des choix que tu as faits, Dieu. » La Bible dit que toute bouche sera fermée. Toute bouche sera fermée. Parlons maintenant d'un sujet que j'aime un peu mieux. La miséricorde de Dieu. Verset 9, car il a dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. La miséricorde de Dieu. Dieu est un Dieu de colère, mais il est aussi, oserais-je dire davantage, un Dieu de miséricorde. Tout cela, c'est une citation d'Exode 33 et Exode 34. Vous connaissez sans doute l'histoire, je vais la réviser pour ceux qui le connaissent un peu moins et pour nous, pour ceux qui, comme moi, sont oublieux. Moïse avait reçu la loi de Dieu sur le mont Sinaï. Il est monté dans le mont Sinaï, puis Dieu lui donnait les 10 commandements écrits sur 2 tablettes de pierre. Mais lorsqu'ils descendent, le peuple de Dieu est en train de commettre l'idolâtrie. En Égypte, ils adoraient un veau. Ils ont été impatients avec Moïse, qui était dans la montagne un certain nombre de jours. Adorer un Dieu invisible qu'ils ne pouvaient pas voir, ça allait contre leurs habitudes et leur expérience. Ils manquaient de foi. Ils ont dit, Aaron, prends toutes les boucles d'oreilles, puis les boucles de nez, puis les boucles de bouche, puis d'ombrie, puis toutes les autres choses. Ils fendent ça dans une espèce de grande vase, puis chauffer, puis fais-nous un veau d'or qu'on va adorer. Puis c'est ça qu'il a fait. Aaron dit à Moïse, mais le veau d'or s'est sorti tout seul. Ouais. Moïse descend, puis il voit ça, puis l'adoration de cette veau-là était aussi mêlée avec l'immoralité, comme toute l'adoration de ces anciens dieux-là. Moïse descend, puis dans une crise de colère, il casse les tables de pierre et Dieu juge le peuple, puis 3 000 personnes meurent. Sur 2 millions, pas un grand jugement, là. 3 000 meurent. Dieu juge. Dieu dit à Moïse qu'il détruira le peuple et il lui en suscitera un autre. Moïse, tasse-toi, là, je vais détruire ce peuple-là, puis de toi, je vais susciter un autre peuple. Je suis tanné de ce peuple qui n'arrête pas de chialer, qui désobéit. Je donne le premier commandement, c'est tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Deuxième commandement, tu ne feras pas des images taillées, puis descends de la montagne avant même que tu leur donnes la loi. Ils ont désobéi à cela. Puis Moïse, devant la colère de Dieu, il intercède pour son peuple. Quelle image de Christ qui intercède pour nous. Puis Dieu dit, OK, mais j'enverrai un ange pour conduire le peuple. J'enverrai un ange qui va te conduire. Je ne les détruirai pas. Puis Moïse n'est pas satisfait de ça. Moïse dit, Dieu, ce grand peuple, quelques 2 millions peut-être, je dois les faire traverser le désert, je dois les faire entrer dans la terre promise. Dieu, il faut que tu aies avec moi. Si tu n'es pas avec moi, si tu ne conduis pas, je ne suis pas capable. Puis Dieu dit, je vais le faire, je serai avec vous. Puis Moïse dit, je veux que tu te révèles à moi. Dieu, tu t'es révélé dans la buisson ardente, tu t'es révélé dans les plaies en Égypte, tu nous as délivrés en nous faisant passer la mer Rouge. Mais Dieu, je veux savoir vraiment qui tu es. Puis Dieu dit, tu ne peux pas me voir, tu mourras si tu me verrais dans toute ma gloire. Mais je vais passer, puis il cache Moïse dans une crue, dans un rocher, puis c'est comme s'il dévoile, il révèle une partie de sa gloire. Son dos, les Écritures disent, un peu un symbole, je pense, de cela. Puis, on lit ceci dans Exode 34, 6. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et ayant fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations. » Chers amis, Moïse avait vu le Dieu puissant. Puis là, il voit la gloire de Dieu. Et pour Dieu, cette gloire consiste en ce qu'il est, un Dieu miséricordieux. Je ne sais pas si vous réalisez l'importance de ça. Où serais-je, moi, si Dieu n'était pas un Dieu miséricordieux? Où seriez-vous, si Dieu n'était pas un Dieu miséricordieux? John Piper a un livre dans lequel il dit ceci. Un livre qu'il écrit, voilà, bien longtemps. Il dit ceci. Ce que nous avons dans l'Exode 34 n'est pas seulement le récit de comment Dieu a agi envers Moïse et son peuple. Plutôt, ce que nous avons ici est une solennelle déclaration de sa nature, de son caractère, de sa gloire, de son nom. Tu le vois? Dieu qui crie, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant. Compassion vient en hébreu et en grec du mot intestin. Quand on est bouleversé émotionnellement, nos intestins sont bouleversés, ça fait mal, n'est-ce pas? On lit que notre Seigneur Jésus-Christ a été ému de compassion, c'est ce même mot en grec, splagna, compassion, les intestins qui bougent. Nous, on dit, je t'aime de tout mon cœur. Un hébreu disait, je t'aime avec tous mes intestins. C'est plus romantique, je suppose. Essayez ça, les gars, ça va peut-être marcher pour vous. Miséricordieux. Non seulement que Dieu ne nous traite pas comme nous méritons d'être traités, mais Dieu nous traite comme nous ne méritons pas. C'est négatif et c'est positif. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Il nous accorde son pardon. Quel Dieu. Quelques vérités. Il nous faut la miséricorde pour être sauvés. Où êtes-vous encore en train de vouloir faire plaisir à Dieu? Pensez-vous que par vos œuvres, ou par vos actes, ou par vos pratiques religieuses, que vous pouvez être sauvés? Il n'y a qu'un seul moyen d'être sauvé, c'est par la miséricorde de Dieu. Deuxièmement, Dieu est un Dieu de miséricorde, quelle bonne nouvelle. Non seulement que nous avons besoin de la miséricorde, c'est le seul moyen par lequel nous pouvons être sauvés, mais Dieu est un Dieu de miséricorde. Troisièmement, nous pouvons faire appel à la miséricorde de Dieu. Nous avons le droit de nous adresser à Dieu, puis appeler sa miséricorde. La mère d'Ishmaël, Agar, dans le désert, rejetée par Sarah, rejeté par Abraham, chassé dans le désert, elle et son bébé en train de mourir de soif puis de faim, elle appelle à la miséricorde de Dieu et Dieu lui demande la miséricorde. Le publicain qui est là dans le grand espace au coin des rues à Jérusalem, il écrit à Dieu, « Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Et Dieu est miséricordieux envers lui. Nous pouvons faire appel à la miséricorde de Dieu. Nous pouvons proclamer la miséricorde de Dieu aux autres. Est-ce que vous proclamez aux autres que Dieu est miséricordieux? Comme conclusion, j'aimerais terminer avec un verset qui nous vient du livre de Jonas. Le salut vient de l'Éternel. Vous connaissez l'histoire de Jonas? Dieu l'appelle pour aller à Ninive, pour prêcher l'Évangile. Mais Jonas est un peu comme nous. Il ne veut pas écouter Dieu, il ne veut pas obéir à Dieu. Il n'est pas content de la décision de Dieu. Il pense qu'il sait mieux que Dieu qu'est-ce qui est bon pour lui puis bon pour le peuple de Dieu. Puis il fait le contraire de Dieu. Êtes-vous comme ça des fois? Ben oui. On pense qu'on est plus intelligent que Dieu, puis Jonas est en son affaire. Au lieu d'aller vers Ninive, il s'en va vers l'Espagne, le Tarse. Plus grande distance qui était probablement connue à cette époque-là. Il prend un bateau. Et lorsqu'il est sur le bateau, Dieu envoie une tempête. Puis Jonas réalise que c'est un jugement de Dieu sur lui. Puis au lieu de se repentir, il dit, « Jette-moi dans la mer! J'aime mieux être noyé que d'obéir à Dieu. » Têtu. Dispute-tu, têtu. Il y a-tu du monde têtu comme ça ici? Il a fallu qu'il envoie dans la mer pour le sauver, pour lui venir au bout de lui-même. Puis Jonas, au lieu d'être noyé, il est envalé par un grand poisson, puis au fond de la mer, dans la misère, dans l'ombrage, puis sûr que ça ne sentait pas bon. Ce psaume qu'il écrit dans le deuxième psaume, dans le deuxième chapitre de Jonas, se termine comme ceci. Enfin, il crie, « Le salut est de l'Éternel. » Il vient au bout de lui-même, puis il réalise que le salut ne vient que de Dieu. Puis que c'est Dieu qui est boss. Puis en effet, Jonas n'était pas d'accord avec les choix de Dieu. Il ne voulait pas que Ninive soit sauvée. Jonas n'avait pas peur des Ninivites. Il ne voulait juste pas qu'ils soient sauvés. Chers amis, Paul nous dit au verset 16, « Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ça ne dépend pas de notre volition, de notre volonté, ni de celui qui court, celui qui travaille fort, mais de Dieu qui fait miséricorde. » Puis ce matin, je vous invite à mettre fin à vos efforts humains, à votre justice propre, à votre volonté propre, à votre têtuétude, je peux-tu le dire comme ça, têtu. Je vous invite à mettre fin à cela, puis tourner vers Dieu, puis crier, le salut vient de l'Éternel. Ça dépend du Dieu qui fait miséricorde. Aujourd'hui, je vous invite de vous plier le genou et de recevoir la miséricorde de Dieu en Jésus-Christ. Ah, Seigneur, merci que tu es un Dieu de miséricorde. Tu es un Dieu de colère parce que tu es un Dieu de justice et le péché doit être puni. Et tu as permis que notre péché soit puni sur la personne de Jésus-Christ et qu'on soit exempté de subir ta colère. Merci que tu es un Dieu de miséricorde. Oh Seigneur, où serions-nous perdus, sans espoir? On appelle à toi. On fait appel à toi ce matin pour celui, pour celle qui est ici, qui ne te connaît pas encore personnellement comme sauveur. Celui qui n'a pas encore reçu le pardon en Jésus-Christ. Que ce soit aujourd'hui que cette personne expérimente la miséricorde de Dieu. On demande avec instance au beau nom du Seigneur Jésus-Christ.